17 mars 2009, je l'ai dit tantôt, cela fait 5 ans depuis que le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA a été créé. Est-ce que les ONG qui travaillent dans les secteurs ont réellement trouvé leur compte et aussi ont réalisé des résultats attendus? Nous aurons à répondre à toutes ces questions avec nos invités qui sont dans ces studios. Bonjour Raymond Boyot.
Bonjour Gérard.
Bonjour Madame Thérèse.
Bonjour.
Alors nous avons d'abord Marcel Ngombo dans ce studio qui s'est penché sur la question, qui a creusé pour nous faire une idée sur les 5 ans d'existence de PNMLS. Marcel, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à tous.
Et bon retour après les vacances.
Ça me fait plaisir de retrouver les auditeurs.
Voilà, alors pouvons-nous dire, Marcel, aujourd'hui, que 5 ans après la création de ce programme, des avancées significatives ont été réalisées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie?
Vous savez, hier, la RDC figure dans le monde parmi les pays durement touchés par le VIH-SIDA. On estime à ces jours plus d'un million de personnes infectées par cette maladie. Il était donc impérieux de mettre en place un programme qui mobilise tous les acteurs du secteur de la vie nationale, mais aussi des fonds pour lutter efficacement contre la propagation de cette maladie. Alors, ces programmes créés en 2004 s'articulent sur 4 domaines d'action, à savoir la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le VIH-SIDA, la mobilisation et la coordination de tous les acteurs, la mobilisation des bailleurs de fonds et la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le SIDA. Alors, s'il faut parler des avancées significatives, hier, peut-être la plus grande avancée, c'est par rapport à l'accès au traitement antirétroviral. À l'heure actuelle, on estime à quelque 30 000 malades qui ont accès à ce traitement, alors qu'il y a encore 5 ans, ils étaient autour d'un millier, moins d'un millier même.
Mais c'est encore juste quelques 10% quand on sait qu'il y a près de 300 000 PVV éligibles au traitement antirétroviral, Marcel.
C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir par rapport à cette question, mais il y a donc davantage de fonds qu'il faut mobiliser pour atteindre un grand nombre de malades du SIDA. Il faut rappeler qu'il y a des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale avec les programmes MAP et les fonds mondiaux qui mettent des moyens par rapport à ça. Ça a compté des partenaires internationaux, mais évidemment le gouvernement congolais.
Alors, mais encore faudra-t-il parler de la sensibilisation qui semble de loin marcher. Aujourd'hui, il faut bien le dire, la tendance des personnes infectées est plutôt à la hausse.
Alors, OGR, ça, il faut également le souligner, mais selon Didier Watsiba, qui est le coordonnateur en intérim du PNMLS et qui est le programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA, il y a encore beaucoup de défis à relever, mais par rapport à la mission globale assignée à cette structure, il estime que beaucoup a été fait en 5 ans. On l'écoute.
Le bilan est positif, largement positif. Pour apprécier la performance d'une structure, il faut tenir compte de son référentiel. Et son référentiel ici, pour nous, c'est le décret de création qui avait été signé par le chef d'État le 17 mars 2004. Tellement, je peux relever ici quelques réalisations par rapport à cette mission. Déjà, il y a la mobilisation, des ressources extérieures pour la lutte contre le VIH, en RDC. Les deux grands bailleurs de fonds de notre système de lutte contre le VIH sont la Banque mondiale et le Fonds mondial. Déjà, avec la Banque mondiale, le PNMLS était une conditionnalité pour mobiliser ces fonds MAP de la Banque mondiale. Donc déjà, les MAP est là parce qu'il y a une création du PNMLS. Et aussi, on ne le dit pas souvent, le Fonds mondial, aujourd'hui, nous avons, en ce qui concerne la composante VIH, nous avons 3 rounds. Le round 3, le round 7, et le pays vient de remporter le round 8. Mais le round 3 a été négocié par l'équipe PNMLS. Donc, l'équipe PNMLS faisait partie du noyau des négociations de ces fonds. Il y a aussi, en ce qui concerne la coordination, il y a eu la mise en place d'un groupe thématique VIH. Il y a eu l'intégration de la lutte contre le VIH dans au moins 16 ministères. Il y a eu l'élaboration des plans stratégiques secteur santé et éducation. Il y a eu renforcement des capacités de la société civile contre le VIH. Mais il y a plusieurs défis aussi, donc je ne peux pas dire que tout est rose, mais il y a quelques problèmes aussi.
Voilà, ben, c'est très beau tout ça, mais sur les terrains, Marcel, on note de plus en plus de jeunes qui sont atteints et aussi la ruralisation de cette pandémie.
Oui, il y a une pandémie qui au départ concernait les villes, les cités urbaines. Maintenant, on trouve de plus en plus de personnes infectées dans les cités rurales, mais encore, ce qui est plus inquiétant et dommage, beaucoup de jeunes sont de plus en plus infectés par cette maladie. Et d'ailleurs, cette inquiétude par rapport à la montée de cette maladie chez des jeunes a été exprimée lors de l'atelier organisé en mois de février dernier par le PNMLS sur l'élaboration du nouveau plan de stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA. Et je propose à ce sujet d'écouter Trésor Cassia, qui est le coordonnateur national du RACOJ, qui est le réseau des associations congolaises de jeunes contre le VIH/SIDA.
Ma principale préoccupation serait que cet atelier ou bien ces processus permettent à la jeunesse de retrouver son rôle central, son rôle de pilier dans la lutte contre le VIH/SIDA. Et donc les recommandations, nous les avons formulées dans notre groupe de travail jeunes et qui tournait pratiquement autour de la reconnaissance des jeunes comme leaders, comme acteurs de première ordre dans la lutte dans le domaine de la prévention en particulier. Et si je peux formuler une recommandation particulière à ce sujet, c'est qu'il faudrait que les associations, les organisations de jeunesse soient de plus en plus impliquées, bénéficient de plus en plus d'appui de la part des partenaires pour espérer atteindre des résultats meilleurs dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA.
Alors, un autre fait à déplorer, Marcel, il y a des coins du pays où la lutte contre cette pandémie a mis du retard.
Plusieurs, on pourra citer la province de l'Équateur, mais surtout également la province de Bandundu. Je n'en dis pas plus, cela fait également l'objet de recommandations lors de cet atelier avec Benjamin Kasuka. J'ai un peu du mal à lire son nom, qui est lors de ce séminaire atelier, qui avait demandé s'il fallait plus renforcer la lutte au niveau de la province de Bandung dans les côtes.
D'abord, notre programme n'est entré en activité dans la province de Bandundu qu'en 2007. C'était un petit peu de gens en retard, mais maintenant, là, par rapport aux réalités de la province, nous avons eu beaucoup de difficultés. Il y a notamment le contrainte d'accessibilité dans la partie nord et sud de la province. La partie Maïndombe et la partie Kwango dans Kayemba, Kajiji, tout ça, la situation était très difficile. Et de deux, l'insuffisance des prestataires, des médecins, des infirmiers, des laborantins formés. Okay? La politique de formation est une politique, je veux dire, restrictive, sinon un petit peu centralisée, et on a profité pour demander sa décentralisation. Et la politique d'approvisionnement en ARV, en implants, était aussi faible. Hein, ces stratégies-là n'ont pas permis d'avoir des implants en temps voulu, des ARV en temps voulu, le tout coordonné, les médecins, les infirmiers, pour prendre en charge beaucoup plus de malades. Alors maintenant, là, on est en train de suggérer, d'améliorer les choses, et nous avons espoir que ça marchera.
Voilà, Marcel, à moins que vous ayez un autre élément à ajouter, sinon on s'arrête là.
Bon, je dirais peut-être un élément ajouté, c'est par rapport à toutes ces plaintes, notamment des ONG sur les fonctionnements de la structure du PNMLS. On estime qu'il y a beaucoup de fonds qui sont mis à leur disposition, mais c'est plus de frais qui vont dans les fonctionnements de cette structure plutôt que vers des actions complètes.
Il n'y a pas besoin de marcher parfois, c'est faire un tout complet dans les
fonds. Voilà, donc on va revenir sur toutes ces questions, comme nous avons le coordonnateur ici.
Merci Marcel et bon retour chez nous.
Merci, au revoir à tous.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi est quand vous voulez, où vous voulez.
Voilà, explicatif, c'est Dédé que vous avez suivi dans le son, qui est le coordonnateur, et Hélène Boyot, docteur Hélène Boyot, est membre de la coordination nationale du programme national multisectoriel de lutte contre le sida qui est derrière dans ce studio. Docteur Hélène, bonjour.
Bonjour, JR.
Et bonjour également, Madame Thérèse.
Bonjour, JR.
Alors, nous avons suivi le point que venait de nous faire Marcel Ngombo pour nous brosser un peu les tableaux, disons, la mission assignée au PNMLS par rapport au décret signé par le chef de l'État en date du 17 mars 2004. Aujourd'hui, bonjour, ça fait 5 ans. Alors, dans 5 ans, s'il faut vous demander, vous personnellement, de PNMLS, de faire un bilan d'abord, vous diriez, vous serez jugé parti, donc, en disant que le bilan est positif.
Pas seulement jugé parti. Donc, nous sommes acteurs, comme les autres acteurs qui sont dans le pays et qui sont engagés et qui mènent la lutte contre le sida. Donc, cinq ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? La première pensée doit aller au chef de l'État qui a pris l'initiative de pouvoir concrétiser un engagement pris au sommet au niveau international. Rappelons-nous que le 26 janvier 2001, le chef de l'État venait de prendre le rôle de ce pays dans des conditions un peu très difficiles. Et puis, pratiquement cinq mois après, je crois que c'est parmi ses premiers voyages, il va participer à la session extraordinaire des Nations Unies consacrée pour la première fois à la lutte contre le sida. Donc lui qui venait d'arriver, qui avait trouvé beaucoup d'autres problèmes, s'est engagé personnellement à aller participer à cette session extraordinaire des Nations Unies et à s'engager à pouvoir mettre en place un cadre national multisectoriel pour mobiliser tous les secteurs dans la lutte contre le sida, parce que le sida va au-delà de la santé, va au-delà de l'hôpital. Et donc, fort de cet engagement, le chef de l'État, il a signé le décret le 17 mars 2004, discuté au Conseil des ministres, etc., et le PNMLS naquit. Alors, le PNMLS est né et le gouvernement a signé quatre principaux objectifs au programme, à savoir le plaidoyer qui doit être très fort pour l'engagement effectif de tous les secteurs dans la lutte contre le sida. Alors, cinq ans après, nous pouvons constater que cette multisectorialité est quasiment un acquis. C'est vrai que cette multisectorialité était affirmée avant 2004, mais elle s'est concrétisée, elle s'est matérialisée. Aujourd'hui, à part le ministère de la Santé qui a maintenu son rôle, il y a les autres ministères qui ont intégré, qui ont même mis en place des programmes sectoriels de lutte contre le sida. Je m'en vais pour exemple, le programme de l'armée pour la lutte contre le sida, le programme du ministère de l'Intérieur au niveau des églises, des confessions religieuses, donc l'église catholique notamment, a développé toute une pensée, toute une vision, et au-delà de ça, les secteurs privés, dans les entreprises, les ONG, la composante communautaire, dans la multisectorialité aujourd'hui, c'est un acquis. Alors, le deuxième objectif fondamental du programme, c'était la mobilisation des ressources. Je crois que le coordonnateur national l'évoquait tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, depuis 2004, et sous l'impulsion du chef de l'État et du gouvernement, il faut constater avec joie qu'il y a une mobilisation progressive et qui s'accroît du jour au jour de ressources, notamment financières, pour la lutte contre le sida. Donc là, on peut citer le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui aujourd'hui, si nous pouvons mettre tout dans la balance, on arrive à près de 400 millions de dollars mobilisés durant ces cinq dernières années. Et à part le Fonds mondial, il y a les MAP à travers la Banque mondiale qui a pu, on a pu mobiliser 102 millions de dollars. Et au-delà de ces deux principales sources de financement, il faut citer les autres partenaires traditionnels, donc les agences du système des Nations Unies, le PNUD dans son programme de lutte contre la pauvreté, l'UNICEF, l'OMS, l'UNFPA, l'UNESCO, etc., mais aussi les autres agences de coopération bilatérale, la coopération allemande, la GTZ, la coopération technique belge, ainsi de suite. Donc en termes de mobilisation des ressources, qui est la deuxième mission du programme, les choses sont plutôt positives, mais il faut accroître encore des ressources parce que les besoins de ces pays sont immenses.
Oui, mais avec les partenaires, je crois que la réponse que la population attendait, c'est voir le taux de prévalence, que la tendance soit à la baisse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si nous prenons juste un titre illustratif, le cas de Tikapa, qui aujourd'hui c'est vraiment un foyer du sida, là c'est vrai, vous me répondrez que l'action de PNMLS arrive dans cette partie du pays en retard, mais ça montre déjà, c'est l'arbre qui cache la forêt, que malgré tous ces financements, malgré cet arsenal de bailleurs de fonds, le travail qui est fait n'a pas été correct.
Non, en fait, et le troisième objectif, la troisième mission, c'est mettre en œuvre le plan stratégique, etc., donc offrir des services de prévention et de prise en charge de l'infection à la base. Et c'est là qu'il faut reconnaître que On a eu des avancées, certes, mais beaucoup de défis sont encore là et qui limitent l'accès aux services, tant de prévention que de prise en charge. Et donc, la couverture en termes de services dans le pays, on peut dire qu'il y a eu des avancées, mais on est encore en dessin, de prévisions que nous devons réaliser. Donc, si on prend aujourd'hui la prévention, on prend comme ça un domaine, la prévention de la transmission mère et enfant, du VIH, on est au mois de la femme. Donc, là, par exemple, on a essayé de faire quelque chose, mais la couverture est à peine à 5%.
Oui, mais certains observateurs disent qu'effectivement, il y a des fonds qui sont sortis, mais dommage que ceux-là soient affectés directement pour l'installation et le fonctionnement d'abord de PNMLS, et le reste, on donne aux acteurs qui doivent être sur le terrain. Et que répondez-vous à ces observateurs?
Non, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un cadre de coordination de lutte contre le sida s'il n'est pas fonctionnel. Le cadre doit être fonctionnel. Mmh. Et même le partenaire à travers lequel nous mobilisons toutes ces ressources...
Il ne faut pas affecter 80%
du
financement pour le fonctionnement.
Pas du tout, et ce n'est pas le cas. Mais le vrai problème pour l'offre de services, c'est que, voyons l'image concrète de notre pays. Donc, pays post-conflit, avec destruction des infrastructures sanitaires, des infrastructures sociales de base, et donc c'est dans ces contextes-là qu'il faut devoir assurer l'accès aux services. C'est pas facile. Donc le processus est en cours, mais les défis restent énormes. Prenons un exemple, le traitement par les ARV. Avant 2004, même avant 2002, on avait à peine 800 personnes sous ARV dans ce pays.
Ce n'était pas à la portée de toutes les bourses.
Et donc, avec tous ces financements, etc., donc aujourd'hui, on est à près de 30 000 patients sous ARV. Donc, il y a un effort, mais ça ne représente que moins de 10% de couverture du pays. Donc, vous voyez, dans cet élan de la reconstruction du pays, les efforts sont en train d'être entrepris, mais les défis sont encore là. Mais
parmi ces défis, je reviens encore sur certains observateurs qui, normalement, suivent pas à pas l'évolution du PNMLS. Ils disent que l'approche utilisée pour réellement atteindre les objectifs, cette approche est encore discutable. Ça nécessite quand même qu'on puisse revoir 5 ans après, mais on pourrait peut-être en parler avant la fin de l'émission, comment changer des stratégies, comment changer d'approche. Mais est-ce que vous êtes d'avis, avec ces observateurs qui disent qu'il y a vraiment été lancé un problème d'approche utilisé quant à la sensibilisation?
Mais tout à fait, on est en phase avec ses compatriotes. Donc aujourd'hui, la lutte contre le sida dans le pays, nous avions un plan stratégique national où on définit les approches, les stratégies, etc. Ça datait de 1999 et ça a couvert une période de 10 ans. Ça a expiré fin décembre 2008. Et donc, depuis, je crois que Marcel faisait allusion tout à l'heure. Donc, on est dans un processus de définition, de révision des approches, des stratégies pour mieux offrir les services de prévention et de prise en charge à nos compatriotes.
Parmi vos partenaires, vous avez même cité, vous travaillez en synergie, en connivence avec Caritas Congo. Alors, Madame Thérèse est avec nous, c'est une chargée du programme VIH SIDA Caritas Développement. En fait, quelle est la contribution de Caritas Congo dans la lutte contre le SIDA?
Merci, JP.
JR plutôt.
Ah, JR, ok.
Oui.
Merci, JR, pour la question. La Caritas, l'Église catholique, apporte un plus à la lutte contre le VIH en insistant surtout sur la prévention, l'éducation et la prévention. En fait, il y a deux ans et demi déjà, l'Église catholique est en pleine consolidation de ses actions dans la lutte contre le VIH-SIDA et ce processus a abouti à l'élaboration d'un document d'orientation pastorale. Donc les évêques ont décidé d'impliquer toute l'Église, toutes les structures de l'Église dans sa multisectorialité dans la lutte contre le VIH-SIDA. Et nous avons principalement 4 axes de stratégie au niveau de l'Église catholique, c'est notamment l'éducation et la prévention. L'Église insiste beaucoup sur l'éducation parce que la maladie liée au virus à VIH, c'est une maladie essentiellement comportementale. Et on se dit, les évêques se sont dit, qu'il fallait étudier, qu'il fallait aller en profondeur avec l'éducation. Parce que vous n'allez pas me contredire, l'éducation est tombée trop bas. Et les évêques, ils en sont conscients. C'est ainsi qu'ils ont donné cette impulsion. Ils sont dans cette dynamique-là de pouvoir éduquer la population à tous les niveaux. Éducation pour les enfants, pour les adolescents et même pour les adultes, afin que nous ayons une société.
Et pour cette éducation, quelle est l'approche que vous utilisez?
Plusieurs approches. Il y a l'éducation en milieu scolaire et en milieu hors scolaire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas scolarisés. Et en milieu scolaire, nous avons pensé intégrer le cours d'éducation à la vie dans toutes les écoles et en partenariat même avec l'État. Je crois que l'Église est en train d'aller...
C'est timidement, parce que là, si nous circulons dans toutes les écoles, et surtout les écoles lesquelles nous avons des contacts faciles, on se rend compte que les cours d'éducation civique et morale n'ont pas été mis à jour, donc c'est-à-dire par rapport à cette approche. C'est pratiquement des vieilles notes que nous-mêmes nous avons utilisées à l'époque.
Tout à fait. Dans le plan stratégique que nous venons d'élaborer avec l'Église catholique en collaboration avec le PNMLS et les autres secteurs de l'État et notamment les PSP, il y a un axe prévu pour la révision de tous ces documents. Tous ces documents doivent être réévalués parce que on doit donner une éducation,
oui,
une éducation à la hauteur des enjeux.
On s'approche à la fin de
l'année,
au dernier trimestre, parce qu'il ne faudrait pas attendre tout le mois de juin, juillet pour vous mettre à l'œuvre. C'est le moment d'y penser, c'est-à-dire proposer déjà un document, et surtout que c'est une année pédagogique, le manuel scolaire doit être revu.
J.R., je vous dis que nous venons de terminer notre plan stratégique et le programme d'action opérationnel pour la mise en œuvre de ce plan stratégique et vient d'être terminé.
Caritas travaille vraiment dans un tour du voir. Les actions restent toujours dans l'Église catholique et pourtant la lutte contre les sida, c'est l'affaire de tous. Vos actions ne sont pas visibles.
Ce n'est qu'une impression, JR.
L'impression,
ce n'est qu'une impression. L'Église catholique travaille pour toute la population. Voyez, dans un diocèse, nous n'avons pas qu'un réseau d'écoles catholiques. Il y a des écoles de l'État aussi que l'Église catholique appuie.
Et ces actions, vous les menez grâce à l'appui financier des PNMLS?
Jusque-là, pas encore, mais ils nous ont promis de nous appuyer. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous et d'ici là, nous allons signer un protocole d'accord pour des activités bien sûr programmées dans notre
programme. Alors, je voudrais vous, Dr. Emmanuel, quand on voit une structure, disons, une structure fiable et qui travaille, on ne leur donne pas de financement, mais aujourd'hui, bon, ça relance un peu les débats sur la passation des marchés, l'octroi de financement dans certaines ONG. Pourquoi ne pas appuyer des structures connues et qui travaillent dans les secteurs d'une manière correcte, que donner l'avantage aux ONG, communément appelées les ONG malaises?
Tout à fait, hier, vous savez, au nombre de défis que nous avons, c'est celui-là. J'étais d'abord à saluer l'action des ONG qui sont viables et qui apportent beaucoup dans la lutte contre les sida, mais malheureusement, le revers de la médaille, c'est qu'il y en a, aussi qui sont de malaise, comme vous dites, et qui n'ont pas facilité les choses. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on reconnaisse les difficultés de jeunesse aussi. Tout au début, le PNMLS ne s'est pas empêché, n'est-ce pas, de pas éviter ces difficultés de jeunesse qui sont inhérentes à beaucoup d'institutions, à beaucoup de programmes au début. Et donc, aujourd'hui, 5 ans après, nous avons fait la cartographie dans tout le pays, la cartographie des interventions et des intervenants pour savoir qui sont de partenaires fiables qui peuvent aider les pays à améliorer notamment la couverture en termes de services de prévention et de prise en charge. Et l'Église catholique, à travers Caritas Congo, représente l'un de ses partenaires. Mais à part l'Église catholique, il y a les autres confessions religieuses les autres acteurs jusqu'aux entreprises,
oui, parce que,
etc.
L'idéal aurait été de travailler avec des structures qui sont très bien représentées dans, à travers le pays, voilà. Notamment la Caritas, parce qu'aujourd'hui, si nous prenons les cas des TICAP, je reviens encore sur ça, PNMLS vient à peine d'ouvrir ses portes d'être opérationnel. Mais pourtant, Caritas a évité. Vous pouvez peut-être précéder l'opérationnalité de PNMLS. Je crois que parmi les stratégies que vous allez changer, il faut quand même noter cette recommandation de certains observateurs.
Tout à fait. D'ailleurs, Caritas en est un partenariat, parce que c'est grâce à Caritas que le fonds mobilisé notamment par la Banque mondiale parvient aux OAC, aux organisations assises communautaires, dans les milieux où il n'y a pas la représentation, il n'y a pas de bornes. Donc c'est grâce à Caritas. Donc on est déjà en partenariat, mais maintenant, comme je viens de finir un programme, clairement, afin de budgéter et tout ça, nous allons aller tout
de suite. Alors, parlons maintenant de la prise en charge. Parce que les PVV, aujourd'hui, je crois que 5 ans après, il faudrait quand même qu'on parle de la situation des PVV. Vous avez bien dit, aujourd'hui, les PVV ont accès au traitement antirétroviral par rapport au nombre d'il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, il y a quand même des avancées très significatives. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la ruralisation de la pandémie, du sida, la couverture au niveau des provinces, elle est trop faible, ça il faut le reconnaître, mais est-ce que vous avez cherché à mettre en place une alternative pouvant aider peut-être à pallier cette crise?
Les alternatives, nous y avons pensé, mais représentons-nous d'abord que la répartition de médecins, si je ne prends que cette catégorie professionnelle, on a une répartition inégale de médecins dans le pays. Donc la plupart préfèrent rester à milieu urbain, pour des raisons connues, parce que le traitement, ainsi de suite. Donc, si nous n'avons pas de médecins en milieu rural, comment allons-nous assurer la prise en charge, notamment par des ARV, qui exigent à ce qu'il y ait de médecins? Donc, ça, pour nous, c'est une contrainte, mais le ministère de la Santé a défini une stratégie de renforcement du système de santé pour pouvoir le rendre opérationnel, fonctionnel, et c'est dans ces systèmes-là que la lutte contre le sida va s'intégrer pour pouvoir améliorer la couverture, notamment pour la prise en charge. Donc, mais aussi, nous voulons aussi, on ne va pas attendre que le système fonctionne de manière optimale, etc., mais aussi nous voulons profiter de l'opportunité que nous donne tous ces financements SIDA pour faire d'une manière ou d'une autre contribuer à renforcer les systèmes de santé et donc améliorer la couverture. Donc si on achète le microscope, si on achète les automates du suivi de dermatologie, etc., dans les cas du SIDA, mais il n'y aura pas que de malades du SIDA qui vont en bénéficier, c'est pratiquement tous les malades. Donc aussi, le SIDA, la lutte contre le SIDA va contribuer d'une manière ou d'une autre à renforcer le système.
Voilà, on reste encore là dans ce studio, on va faire un tour du côté de Mbandaka. Il y a une nouveauté, parce que la MONUC a